VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h temps universel. La Somalie va désigner le 30 octobre prochain son nouveau président au terme d'un processus électoral au suffrage indirect. Au total, 14 000 délégués choisis par les clans vont voter par étapes successives pour élire les 54 représentants d'une nouvelle chambre haute d'ici le 25 septembre, puis les 275 députés de l'Assemblée nationale, dont 30% seront des femmes du 24 septembre au 10 octobre. Ces grands électeurs, sénateurs et députés, eux vont se réunir le 30 octobre pour élire le nouveau chef de l'État somalien. L'actuel chef de l'État, Hassan Cheikh Mahmoud, a d'ores et déjà indiqué qu'il était candidat à sa succession pour un second mandat en Somalie. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a été de nouveau la cible d'attaque dans le nord du pays. L'explosion d'une mine dans la région de Kidal a fait un mort et 4 blessés, tandis qu'une seconde n'a pas fait de victimes, chez Rubin Dorcel.
Selon un responsable de la MINUSMA que cite l'agence France-Presse, les victimes sont toutes des Tchadiens, dont un casque bleu. Le communiqué de la mission onusienne précise que le véhicule qui les transportait et qui accompagnait un convoi logistique a sauté sur une mine vers 6h50 du matin à environ 11 km au sud d'Agelrok à Nefis. La seconde explosion, survenue environ 2h30 plus tard, n'a causé que des dégâts matériels. Là encore, un véhicule de la mission était la cible. La MINUSMA, qui a perdu une trentaine de soldats en un an, a réaffirmé que de tels actes n'auront pas d'effet sur son soutien aux efforts de paix dans le nord du Mali. Mais il n'y a pas que le nord à être visé. Des attentats ont également eu lieu dans le centre et le sud du pays. Fin juin, l'ONU a renforcé le mandat et les effectifs de la MINUSMA, tout en clarifiant sa mission d'assistance au gouvernement de Bamako dans le cadre de ses initiatives pour la paix et la réconciliation au Mali.
Présidentielle à Sao Tome et Principe, le seul candidat en lice, Evaristo Carvalho, devrait être déclaré sans surprise nouveau président avec 38% des suffrages des électeurs inscrits, selon des résultats provisoires de la Commission électorale nationale, la CN. Seul inscrit pour le scrutin de dimanche après le retrait de son rival, le président sortant, Manuel Pinto da Costa, M. Carvalho a recueilli 42 058 voix sur quelque 111 000 inscrits, selon ses résultats publié dans la nuit de dimanche à lundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, les leaders de l'opposition ont appelé à une journée ville morte sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, alors que le président Idriss Déby Itno doit être investi pour un nouveau mandat de 5 ans. N'Djamena est le théâtre depuis ce week-end de violents heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants de l'opposition. Rejoignons dans la capitale tchadienne André Kodmajinga.
Un militant grièvement blessé par balle a succombé dans un hôpital de la place. Le président du Parti socialiste sans frontières, Dinamo Daram, membre du FONAC qui a été brièvement interpellé par la police, a déclaré à sa sortie que cette intimidation n'entame en rien la détermination de l'opposition.
Déby est illégal, illégitime et nous allons continuer à manifester jusqu'à notre dernier souffle.
Sali Kebzabo, coordonnateur du FONAC, insiste sur le caractère légal de la lutte de l'opposition.
Les militants de l'UNDR, du PLD, de Capsure qui étaient en meeting n'ont pas porté atteinte à l'ordre public. Ils étaient dans le siège d'un parti politique et c'est à l'intérieur là qu'on les a gardés. Ça, c'est une action criminelle.
C'est sous cette tension politique que le président Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, s'apprête à être investi. Quelques Tchadiens parlent de leur attente pour ce nouveau mandat.
On veut seulement la liberté et la cherté de vie. Il faut que ça change un peu. Le retard des paiements des fonctionnaires aussi.
Nos opposants s'arrêtent à donner des idées qui ne sont pas à leur place. On a choisi un président pour que le président se mette au travail pour le peuple tchadien.
André Kodmajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 7 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Kibirizi, localité située à 85 km au nord-ouest de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette attaque a eu lieu quelques heures après que le président congolais Joseph Kabila, qui séjournait dans la région depuis mercredi, eut quitté cette zone en proie à des troubles à caractère communautaire. Deogracias Kitabingwa, délégué du gouverneur du Nord Kivu, a attribué l'attaque à des forces rebelles Hutu rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Au Congo-Brazzaville voisin, beaucoup de voix continuent de demander un dialogue politique afin d'apaiser les tensions encore palpables dans le pays. Plusieurs opposants, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, sont toujours détenus, alors que les manifestations des partis qui contestent l'élection de Denis Sassou Nguesso sont interdites. Une partie de la classe politique et de la société civile préconise donc le dialogue, nous dit notre correspondant sur place, Ngoula Nguesso.
Un dialogue politique est-il toujours possible dans le pays? La question se pose partout et plusieurs acteurs politiques y croient dur comme fer. Omer Defundu, du mouvement Sauvons le Congo.
À force de persévérer, nous aurons le dialogue comme l'exige le peuple en ce moment. Et de toutes les façons, la situation de blocage que nous vivons nous conduit à faire quelque chose pour sortir de ce blocage. Faire autrement, c'est continuer encore avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats, parce que les gens qui ne sont pas contents vont toujours manifester.
Paul-Marie Pouillet, président du Rassemblement des jeunes républicains, lui, pense même que le dialogue devra être la nourriture quotidienne en politique.
Pour aller discuter, nous sommes des Congolais, il n'y a personne qui sera un apatride ici. Nous sommes tous des Congolais, nous avons besoin de discuter, de nous parler pour que nous ayons des solutions à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. C'est le cri de cœur que je lance à toute la classe politique, à tous les Congolais, se parler sans jamais se lasser de discuter.
Le Premier ministre Clément Mouamba avait annoncé devant l'Assemblée nationale que le dialogue politique sera au cœur de son action. Mais de quoi sera-t-il question à ce dialogue s'il venait à avoir lieu? Le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, Pierre Ngolo, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, estime que l'élection présidentielle est terminée et que le vainqueur est connu. Pourquoi un autre dialogue? C'est Clément Mirassa de la coordination du FROCAD qui lui apporte la réponse.
S'il faut aller recompter les voix, on ira recompter. Mais les résultats aujourd'hui ne traduisent pas. Et on traque les opposants, les réduire au silence, faire en sorte qu'il n'y ait pas de liberté de circuler. Pourquoi? Pourquoi? Si tant l'assurance était là dans la victoire et dans la conduite des affaires de l'État.
Pour le coordonnateur de l'IDC, Charles Zachary Bouaou, aucune question ne sera esquivée pendant cette rencontre.
Toute la question de la démocratie congolaise dévoyée nous interpelle. Vous connaissez ce qui s'est passé dans ce pays le 25 octobre, c'est un coup d'État. Ce qui s'est passé le 20 mars, c'est un hold-up électoral. On a beau dire ce que l'on veut, mais tout le monde, en interne comme en international, l'a compris. Voilà pourquoi, dans cette démarche, nous continuons à appeler à un dialogue inclusif pour que, se mettant ensemble, les Congolais puissent travailler à sortir de l'insalubrité public dans laquelle nous baignons.
À exactement une semaine de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, de nombreux Congolais continuent à appeler à l'apaisement général. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En Syrie, rebelles et régimes ont dépêché aujourd'hui d'importants renforts en hommes et en armes à Alep et dans ses environs, en préparation d'une bataille cruciale pour le contrôle de la deuxième ville du pays, dont l'issue constituerait un tournant dans la guerre. Dimanche soir, les groupes rebelles et des djihadistes ont annoncé le début de la bataille pour s'emparer de la totalité d'Alep après avoir porté un coup dur au régime dans cette ville du nord du pays. Les insurgés ont en effet brisé le siège de 3 semaines imposée par le régime à leur quartier dans l'est d'Alep à la faveur d'une contre-offensive qui leur a permis aussi d'encercler les quartiers pro-régime dans l'ouest de la cité divisée. Au moins 45 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans un attentat qui a visé aujourd'hui une foule en deuil massée devant un hôpital au sud-ouest du Pakistan. D'après l'AFP, la bombe a explosé alors qu'environ 200 personnes endeuillées étaient rassemblées devant les urgences de l'hôpital civil de Quetta après l'assassinat quelques heures plus tôt du bâtonnier de la province. Ce bilan en fait le deuxième attentat le plus meurtrier au Pakistan cette année après un carnage dans un parc pour enfants bondé où une bombe avait tué 75 personnes lors du week-end de Pâques à Lahore. Ni l'attentat de lundi ni l'assassinat n'ont été revendiqués jusque-là.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et pour terminer, un Américain et un Australien, tous deux professeurs à l'université américaine d'Afghanistan, ont été enlevés dimanche soir au centre de Kaboul par des hommes armés, vêtus d'uniformes. Dernier enlèvement en date ciblant des étrangers, le double rapt n'a fait pour l'heure l'objet d'aucune revendication. Et puis ici aux États-Unis même, la campagne pour la présidentielle de novembre devrait être axée cette semaine sur l'économie. Le candidat républicain Donald Trump prononcera un discours sur son plan économique aujourd'hui à Detroit, dans le Michigan, et sa rivale démocrate Hillary Clinton prononcera son propre discours sur le même sujet vendredi dans la même ville qui fait face à de sérieux problèmes financiers. Detroit, la capitale de l'industrie.
Sur VOA Afrique.